Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue. J'aurais voulu que vraiment ce soir on puisse avoir un temps qui soit un temps de recueillement, un temps de méditation, un temps de prière. Vous savez que quand on relit les évangiles, la semaine qui vient de s'écouler est une semaine qui a été particulièrement agitée. Vendredi passé, c'est le moment où Marie, à Béthanie, va verser le parfum sur les pieds de Jésus, lui essuyer les pieds, le glorifier pour sa sépulture. Dimanche, c'est l'arrivée triomphale de Jésus. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Lundi, c'est l'épisode du figuier desséché. Mardi, c'est le temps de la purification du temple et c'est le temps où le Seigneur va dire « Jérusalem et le temple entier vont être détruits ». Mercredi, c'est le temps où il va y avoir des polémiques dans le temple avec les pharisiens, avec les sadducéens. Et c'est le jour où Judas va vendre Jésus pour 30 pièces d'argent. Jeudi, c'est le temps de la dernière Pâque avec les disciples. Jeudi, c'est le temps où Jésus va laver les pieds de ses disciples. Jeudi, c'est le temps où Jésus va établir le sacrement de la Sainte Cène que nous répétons et répétons chaque dimanche. Et jeudi, c'est le temps où on va venir chercher Jésus lorsqu'il est à Gethsémané. Et jeudi, c'est le temps où on va l'amener devant Caïphe pour le premier jugement. Vendredi, c'est la journée des jugements. De nouveau Caïphe, puis le Sanhédrin. Après le Sanhédrin, ce sera chez Ponce Pilate. Après Ponce Pilate, ce sera chez Hérode. Après Hérode, ce sera de nouveau chez Ponce Pilate. Une semaine mouvementée, une semaine agitée. Et j'aurais voulu que nous puissions faire silence ce soir. On ne va pas beaucoup se déplacer, on ne va pas beaucoup bouger. Je vais seulement demander à Philippe de bien vouloir venir s'asseoir ici devant parce qu'on devra se passer les micros. Et je vais demander aussi si toi tu veux venir au deuxième rang parce que tu devras aussi avoir un micro. Ok ? Merci. On ne va pas beaucoup bouger, on va rester dans la pénombre, on n'éclairera pas plus. On va rester focalisé sur la croix. Aujourd'hui, c'est le jour où nous célébrons le « Tout est accompli ». C'est passé cette chose où l'histoire du monde est devenue différente, mon histoire est devenue différente, votre histoire est devenue différente. Aujourd'hui, on sait que ce n'est pas le bon jour, on sait que ce n'est pas la bonne heure, mais nous voulons nous concentrer, nous focaliser. Et on va le faire sur base des sept paroles, les sept paroles que Jésus-Christ a encore exprimé à la croix. On va lire des témoignages, des histoires, et puis on aura l'occasion de nous laisser interpeller par ces histoires, on aura l'occasion de prier en fonction de ces narrations, et puis aussi on aura des moments de cantique. Je vous invite déjà que tout à l'heure, on parte dans le recueillement. Qu'on reste dans l'esprit de cette soirée. C'est un temps particulier pour nous. On s'arrête. Il y a un tel décalage entre les paroles que Jésus dit à la croix et ce que je suis, ce que je fais, comment moi je parle aux autres, comment moi j'agis avec les autres. Un tel décalage. Que cette soirée de passion pour nous soit encore une occasion de laisser un petit peu toucher notre cœur, toucher notre âme, toucher notre conscience par ces paroles qu'on connaît bien et qui sont tellement en dehors de tout ce qu'on peut penser et imaginer quand quelqu'un se fait clouer sur une croix et perd sa vie sur la croix. Donc je disais, je vous invite à rester dans cet esprit de recueillement. Si vous voulez parler les uns avec les autres, peut-être quand ça sera terminé, après la dernière prière, retirez-vous, parlez là-bas derrière. Ou sinon, si les uns et les autres, vous voulez encore rester un temps ici, à méditer, à prier, à vous humilier devant la croix, sentez-vous libre de le faire tout à l'heure. On quittera cette pièce et ceux qui resteront, resteront, et ceux qui partiront. Mais puissions-nous partir dans cet esprit de recueillement et de méditation ce soir.
Bonsoir. Je m'appelle Festus. Je suis soldat et je suis romain. Surtout ne croyez pas que c'est facile d'être militaire dans l'armée romaine. On reste des mois, parfois des années, sans retourner dans sa famille. De toutes les manières, le jour où je retournerai au pays, je ne saurai pas très bien où aller. Si je me suis engagé dans l'armée, c'est que je ne comptais pour personne. Ici en Palestine, il faut être particulièrement attentif au contact avec la population, car c'est une région sensible. Le procurateur Pilate vit d'habitude à Césarée. Et il ne vient à Jérusalem que pour les fêtes religieuses, parce qu'elle attire beaucoup de monde. Pilate est en ville ces jours-ci parce que c'est la Pâque. Je ne sais pas très bien pourquoi les Juifs fêtent la Pâque, mais ça attire du monde. Il en vient de toute la Palestine et même de l'ensemble de l'Empire. Hier matin, ils ont jugé un agitateur. Je pensais que c'était un de ces terroristes qui cherchent à nous faire quitter la Palestine. Ils se prennent pour des patriotes, mais ce ne sont que des assassins. J'ai un ami avec qui j'avais fait la campagne d'Égypte qui a été tué le mois dernier par l'un des leurs. Il escortait un convoi de ravitaillement et ils sont tombés dans une embuscade. Quand le prisonnier a été condamné à mort, on nous l'a remis pour être fouetté. Le but de la punition est de les affaiblir et de les humilier afin qu'ils servent d'exemple à ceux qui auront envie de les imiter. On attache des petits morceaux d'eau et de métal au bout des lanières du fouet. Comme il paraît qu'il se prenait pour un roi, les soldats de mon unité ont fait une couronne avec des branches d'épines. On l'a posée sur sa tête et on a tapé dessus avec un roseau pour que les épines s'enfoncent. Puis on s'est moqué de lui, on l'a bousculé et on lui a craché dessus en souvenir de notre camarade mort le mois dernier. En vérité, je n'étais pas très à l'aise car je trouve que c'est un peu trop facile de se moquer des autres quand on est à 10 contre 1 et qu'on est armé alors que l'adversaire est seul, nu, et qu'il a déjà subi le fouet. Mais je n'ai rien dit. Ensuite, on l'a emmené pour être crucifié. On s'était tellement bien occupé de lui qu'il ne pouvait plus porter sa croix. Alors on a requis un passant. Arrivé en haut de la colline, on l'a crucifié avec deux autres brigands. Je ne vais pas vous raconter les clous, mais habituellement, dans ces moments-là, les crucifiés hurlent, ils nous insultent, nous injurient et nous crachent le venin. Je dis habituellement parce que cette fois-ci, il y a eu les clous. Mais nous, on n'a pas eu des insultes. Il est resté silencieux. Et ce silence m'a troublé. J'aurais préféré qu'il crie comme les autres, mais ce silence. Les passants, les religieux, tout le monde l'insultait. Et lui se taisait. C'est comme s'il disait, « Vous pouvez tuer le corps, mais vous ne pouvez rien contre l'esprit. » Puis il se taisait. Et plus je le regardais, plus il se taisait, et plus j'avais le sentiment que son silence me parlait. Enfin, il a ouvert la bouche. En me regardant, il a dit.
Ô Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font.
Moi, j'avais de la haine pour lui et les siens à cause de notre ami qu'ils ont tué. Et lui me parlait de pardon à moi qui avais planté les clous. Mais s'il me pardonne, lui, qu'est-ce que je fais de ma haine, moi ?
Les deux pouvoirs. Il y a deux pouvoirs dans le monde. Le pouvoir du bourreau et le pouvoir de la victime. Le pouvoir de celui qui prend une tunique et le pouvoir de celui qui se laisse dépouiller. Le pouvoir de celui qui a tout et le pouvoir de celui qui n'a rien. Le pouvoir de celui qui porte les armes et le pouvoir de celui qui garde les bras ouverts. Il y a deux pouvoirs dans le monde, le pouvoir de la force et la force d'aimer.
Bonsoir, je m'appelle Jonathan et aujourd'hui, je suis condamné à mort. C'est l'heure du grand rendez-vous avec Adonai, l'heure où on solde les comptes de toute une vie. Jusqu'à ce matin, j'étais sûr de moi, mais maintenant... je ne sais plus très bien. Si je meurs sur une croix, c'est pour le service de mon Dieu. Je ne suis pas un criminel qui attaque les gens pour les voler. Je suis un militant politique, un patriote, un zélote. Quand j'étais enfant, mon grand-père racontait qu'il se souvenait du temps où Israël avait une certaine indépendance. Il parlait aussi du jour funeste où les troupes romaines sont arrivées à Jérusalem, leur chef pompé est entré à cheval dans le sanctuaire et il a fait tuer 12 000 juifs dans le temple. Tout ça pour dire que la haine des Romains, elle est en moi depuis que je suis enfant. Une fois adulte, je suis d'abord devenu pharisien. Mais après un moment, je me suis dit que je ne pouvais pas me contenter d'attendre passivement la libération de Dieu et qu'il fallait passer à l'action. Depuis Moïse, nous savons que nous devons être les agents de notre liberté. J'ai donc quitté le village et j'ai rejoint la clandestinité. Nous sommes organisés en bande et nous avons trouvé refuge dans les montagnes. Parfois, nous organisons des actions de commando. La semaine dernière, nous sommes tombés dans un piège. Nous avions repéré une caravane qui traînait un groupe d'esclaves. Nous les avons attaqués, mais les esclaves étaient des soldats déguisés. J'ai été fait prisonnier avec Barouche, un autre patriote. Je connais le sort réservé aux zélotes. Je ne me fais aucune illusion. J'avais déjà assisté à des crucifixions. Mais quand c'est dans votre propre main et dans vos pieds que les clous sont plantés, le troisième crucifié est quelqu'un que je ne connais pas. Sur la croix, on a écrit « Jésus, le roi des Juifs ». Je ne sais pas de qui il était roi, mais vu la façon dont il a été fouetté, ce devait être quelqu'un d'important. C'est probablement le chef d'une autre bande. En tout cas, il ne manque pas de courage, car il ne dit pas un mot. En fait, il m'impressionne par sa dignité. Il a regardé les soldats romains et il a dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Je n'ai pas compris ce qu'il voulait dire. Je sais bien qu'Adonai est miséricordieux, mais pour pardonner les Romains, les ennemis de son propre peuple... S'il ne montrait pas autant de courage, je le prendrais pour un fou. Qui est-il donc pour demander à Dieu de pardonner à ceux qui lui font du mal ? C'est alors que Barouche a commencé à l'interpeller. Si tu es le fils, si tu es le roi des Juifs, pourquoi ne fais-tu rien ? Plutôt que de demander à Dieu de pardonner à ces salauds de Romains, tu ferais mieux de lui dire de nous sortir de là ? J'étais scandalisé. Alors j'ai arrêté Baruch. Tais-toi, tu ne crains donc pas Dieu pour t'exprimer ainsi ? Baruch es-tu ? Et j'ai regardé celui qu'on appelle Jésus. J'ai vu une lumière dans ses yeux. Et dans cette lumière, il y avait une paix qui ne pouvait venir que d'Adonai. Je me suis senti tout petit. Du plus profond de ma misère a germé un sentiment étrange. Mais comment l'exprimer ? Je lui ai simplement dit, « Jésus, souviens-toi de moi quand tu reviendras dans ton règne. » Il m'a regardé et après un moment de silence, il m'a dit,
« en vérité, je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. »
Je ne sais pas très bien qui il est. Mais quand je l'écoute et que je regarde sa dignité, je me demande si notre haine des Romains n'est pas qu'une impasse. Car après tout, s'ils m'accueillent moi, pourquoi pas eux ?
Tu t'es abaissé et tu nous as élevés. Nous t'adorons, toi le Seigneur. Tu t'es abaissé et tu nous as élevés. Tu t'es humilié et tu nous as honorés. Tu t'es fait pauvre et tu nous as enrichis. Tu es né et tu nous as fait naître. Tu as reçu le baptême et tu nous as purifiés. Tu as jeûné et tu nous as rassasiés. Tu as été prisonnier et tu nous as libérés. Tu as été soumis à l'interrogatoire et tu nous as fait siéger en juge. Tu as gardé le silence et tu nous as instruits. Tu as été souffleté comme un esclave et tu nous as affranchis. Tu as été dépouillé de tes vêtements. Et tu nous as revêtus. Tu as été attaché à une colonne et tu nous as détachés et tu as détaché nos liens. Tu as été crucifié et tu nous as sauvés. Tu es mort et nous a fait vivre. Tu as été mis au tombeau et tu nous as réveillés.
Je m'appelle Jean. Je suis un de ceux qui ont suivi Jésus depuis le début. Je crois que j'ai eu une relation privilégiée avec lui. Quand il parlait de sa mission et de ses projets, il s'adressait surtout à Pierre. Mais quand il voulait partager un fardeau, un souci pour une personne, c'est avec moi qu'il parlait le plus volontiers. Hier, nous avons partagé son dernier repas. Quand tous les disciples étaient autour de la table, il s'est levé. Il a pris un linge, une cuvette, il s'est agenouillé et il nous a lavé les pieds. Et puis il a commencé à parler de son départ et d'un esprit de consolation qui viendrait sur nous. J'ai compris que le dénouement était proche. Mais jusqu'au dernier moment, j'espérais une autre fin. Après le repas, Nous l'avons accompagné ensemble au Mont des Oliviers. Il s'est agenouillé et sa prière est devenue un combat. Moi aussi j'ai prié, mais une fois que j'avais demandé à Dieu de le soutenir, je ne savais plus très bien que dire, quoi. J'ai essayé de persévérer, mais la fatigue a été la plus forte et je me suis endormi. C'est lui qui nous a réveillés en disant pourquoi dormiez-vous? Levez-vous, priez, afin de ne pas tomber en tentation. Il n'avait pas fini de parler qu'on entendait du bruit. Une troupe approchait. C'était les gardes Sanhédrin, le tribunal religieux conduit par Judas. L'un des nôtres, nous étions prêts à défendre Jésus, mais il nous en a empêchés. Il s'est offert. Et ils l'ont emmené pour être jugé. Quand le Sanhédrin l'a envoyé à Pilate, j'ai tout compris, qu'il n'y avait plus d'espoir. Le seul souci du procurateur romain est d'avoir la paix. Et je sais qu'il n'aurait pas le courage de s'opposer aux religieux, comme Marie, la mère de Jésus, est en ce moment en ville. J'ai tout de suite pensé à elle et j'ai couru à la rejoindre. Contrairement à mes craintes, elle n'était pas seule. D'autres femmes étaient là. Marie venait d'être informée de la parodie de justice chez Pilate et de la condamnation de son fils. En ce moment même, ils étaient sur le chemin qui conduit au mont du crâne. Elle a gardé le silence un moment, comme pour prendre des forces. Puis elle s'est levée. Elle a dit qu'elle aussi, elle allait gravir la colline. J'ai essayé de l'en dissuader pour lui épargner le spectacle de la croix. Mais elle n'a rien voulu savoir. Elle voulait voir son fils une dernière fois. En route, elle m'a parlé. Elle m'a raconté la présentation de Jésus au temple quand il était un simple nourrisson. Il y avait là un vieux sage appelé Siméon qui a prononcé d'étranges mots. Il lui a dit Marie, une épée te transpercera le cœur. À l'époque, elle n'avait pas compris ce que ça voulait dire. Mais maintenant, elle comprenait trop bien. Quand on est arrivé au mont du crâne, les croix étaient déjà dressées. Et nous voyons venir la foule, sais-tu, elle s'est ouverte pour nous laisser passer. Et on s'est retrouvés au pied de Jésus. On est resté un moment en silence. On n'avait vraiment pas besoin de mots pour se parler. Jésus a regardé Maria et lui a dit
« Femme, voici ton fils. »
Puis, il a tourné son regard vers moi. Il a dit
« Et voici ta mère.
J'ai posé ma main sur l'épaule de Marie et j'ai hoché la tête. Malgré le mal, l'obscurité, la violence et l'injustice, j'ai eu à ce moment-là la certitude, c'est lui qui avait raison, et que son combat était le bon combat. Aujourd'hui, la mort semble triompher, mais il m'a appris que, si fort que la mort, il y a l'amour. Et l'amour nous appelle à continuer notre chemin, même au milieu des ténèbres et de l'oppression. Cet amour qu'il m'a appris, aucun croix ne pourrait l'enlever de mon cœur.
Jean a reçu comme vocation d'accueillir Marie chez lui. Il nous rappelle dans son épître le sens de ce geste. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. C'est en ceci que l'amour de Dieu s'est manifesté parmi nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde pour que nous vivions par lui. Et cet amour, ce n'est pas que nous ayons aimé Dieu, mais que lui nous a aimés et qu'il a envoyé son Fils comme l'expiation pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a tant aimés, nous devons, nous aussi, nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est accompli en nous.
Bonsoir. Je m'appelle Claudius et je suis centurion dans l'armée romaine. Il y a des moments dans la vie où on n'est pas très fier de soi. Je peux toujours me dire que je ne suis qu'un officier qui a obéi aux ordres. Il m'empêche qu'au tribunal de ma conscience, je ne me sens pas très propre. Comme je suis responsable de la sécurité à Jérusalem, je suis obligé de savoir ce qui se passe en ville. J'ai un réseau d'indicateurs qui me tiennent informé. Les rapports sur le Nazaréen disaient tous la même chose. C'était un idéaliste qui n'était pas très dangereux pour l'autorité romaine que je représente. Tout ça pour dire que lorsque j'ai reçu l'ordre de présider sa crucifixion, ça m'a un peu étonné. Mais je me suis dit que Pilate devrait avoir de raison. Quand je l'ai vu, mes soldats s'étaient déjà sérieusement occupés de lui et j'ai eu un peu honte de la façon dont il avait été traité. J'ai tout de suite écrit un passant pour porter sa croix. Je vais vous faire un aveu. Je ne suis pas sûr que la terreur soit le meilleur moyen de gouverner les populations étrangères. Si un jour les Juifs se révoltent, il faudra défendre l'ordre romain, mais on l'aura un peu cherché. Arrivé au lieu du crâne, la foule était déjà là pour assister au supplice. Je n'ai jamais compris ce qu'il y avait d'attirant dans le spectacle des crucifiés. Qu'y a-t-il donc au fond de l'homme pour qu'il aime entendre les condamnés hurler leur haine et leur douleur? Mes soldats ont déshabillé les condamnés et nus, ils les ont cloués. Quand les croix ont été dressées, ils ont joué au dé latinique du Nazaréen. Elle est tachée de sang, mais son étoffe est fine. À la différence de deux autres condamnés, Jésus ne criait pas et n'insultait personne. Il faisait preuve d'un courage qu'en tant qu'officier romain, je savais apprécier à sa juste valeur. À midi, il a commencé à faire de plus en plus sombre, comme si la nuit venait poser son manteau sur la terre pour réclamer son dû. L'atmosphère était lourde, pesante. C'est alors que le Nazaréen a dit d'une voix forte.
« Eloi, Eloi, lama sabachthani. »
Il y a eu un frisson dans la foule. J'ai demandé à un juif de me traduire ce qu'il venait de dire. Il m'a répondu que c'est le premier verset d'un psaume qui dit « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» J'étais bouleversé. Lui, abandonné de son Dieu. Comment est-ce possible? Jusqu'où descendra-t-il donc? Il a encore dit deux ou trois mots, puis ses jambes se sont relâchées, ses bras se sont tendus, et j'ai compris que c'était la fin. Pendant quelques secondes, la terre a tremblé. Comme si les enfers s'ouvraient pour mieux accueillir cet homme rejeté de tous, et même de son Dieu. De crucifixion, j'en ai présidé plusieurs, mais celle-là était différente. Jamais personne n'est mort comme les Nazaréens. Ça n'a aucun sens. Mais je suis sûr que cet homme était plus qu'un prophète. Je crois vraiment qu'il était fils de Dieu. Ne me demandez pas pourquoi un Dieu a été torturé entre deux malfaiteurs. Je n'en sais rien. La seule chose que je sais, c'est que cette croix, je ne suis pas prêt de l'oublier. Et même si je dois chercher longtemps, je finirai par trouver ce qu'elle veut dire.
Quand nous cherchons Dieu très haut, il est avec nous très bas. Il nous rejoint là où personne d'autre ne peut nous rejoindre. Il nous entraîne là où personne d'autre ne peut nous entraîner. Je le crois et je te loue, Seigneur. Maintenant, dans l'impasse où je suis, je vais t'accueillir. Je vais me laisser tirer vers ta vie. Toi qui me rejoins, tire-moi vers toi, car je veux vivre. Je crois. Seigneur, viens au secours de l'incroyable que je suis.
Bonsoir, je m'appelle Néhéré et je suis samaritaine. Si je suis venue à Jérusalem, ce n'est certainement pas pour assister à une crucifixion, mais pour écouter Jésus que j'ai rencontré un jour au bord d'un puits. Je me souviens parfaitement de cette journée à Sichar, en Samarie. À cette époque, j'étais perdue. J'en étais à mon cinquième mari et je ne savais plus ce que était vrai et faux. Je ne faisais plus la différence entre le bien, le mal, le droit et le tordu. Ce jour-là, il y avait un soleil de plomb et à midi, j'étais sortie chercher de l'eau au puits de Jacob. Il était là, assis sur la margelle. Il avait soif et m'a demandé de l'eau. J'étais étonnée qu'il ose m'adresser la parole car il était juif et moi samaritaine. Nous avons engagé la conversation et il m'a parlé d'une eau vive, d'une eau qui étanche notre soif en vérité. Toutes les soifs, même les plus profondes. J'ai vite compris qu'il ne parlait pas seulement de l'eau du puits, mais d'une autre source plus intime. Voyant qu'il n'avait pas peur de me parler, je l'ai interrogé sur la différence entre les Juifs et les Samaritains. On m'avait expliqué que nous, les Samaritains, nous devons adorer Dieu dans le sanctuaire du mont Garizim, alors que les Juifs le font dans le temple de Jérusalem. Il m'a répondu que ces différences n'ont pas beaucoup d'importance car Dieu est esprit Il vient habiter le cœur de ceux qui ont soif. J'ai été bouleversée par ce Jésus qui faisait sauter les barrières entre les Juifs et les Samaritains, les hommes et les femmes, les maîtres et les esclaves. Pour lui, la seule vraie question qui mérite d'être posée est « Quelle est ta soif ? Quelle est ta source ?» Lorsque j'ai appris qu'il allait à Jérusalem, j'ai décidé de l'y rejoindre, mais je suis arrivée trop tard. Il avait déjà été arrêté et même condamné. Je me suis renseignée pour connaître les motifs de son arrestation. On m'a répondu qu'ils sont plutôt flous. On porte sur lui l'accusation absurde de vouloir détruire le temple. Il paraît qu'il y a quelques jours, il a fait un joli scandale en renversant les tables des changeurs du temple et en chassant les vendeurs. Pour moi, ce qui est clair, c'est que le Nazaréen est allé jusqu'au bout de sa parole. Ce n'est pas dans le temple qu'il faut adorer Dieu. Il a abattu les barrières de religion pour qu'on puisse l'adorer en vérité. À cause de cette parole, aujourd'hui, il meurt sur une croix. Je suis en face de cet homme qui est torturé pour être allé jusqu'au bout de sa vérité. Je le regarde et je me souviens qu'il est le premier à avoir posé son regard sur moi. Un vrai regard d'amour, sans convoitise, ni arrière-pensée. J'ai soudain l'impression qu'il m'a remarqué dans la foule, qu'il est à ses pieds. Mais il est exténué. En me regardant, il murmure un simple mot.
J'ai soif.
Il y a là une cruche remplie de vin aigre. Je prends une éponge, je l'imbibe et je la donne à un soldat qui la pique au bout d'une branche et lui donne à boire. Mon geste est dérisoire car il va mourir. Mais pour moi, il est le signe de tout ce qu'il m'a donné. La première fois qu'il m'a demandé à boire au puits de Jacob, ça a été l'occasion d'un recommencement dans ma vie. Aujourd'hui encore, il a soif à cause de la cruauté des hommes et des barrières imbéciles que les religions ont élevées entre Dieu et ses enfants. Cette soif-là, c'est aussi la mienne.
Avec toi, il en est ainsi. Avec toi, Jésus, Dieu passe chez les hommes. Avec toi, Jésus, les yeux éteints passent à la lumière. Les malades passent à la guérison. Les difformes passent à la beauté. Les exclus passent à l'amitié. Les haineux passent à la douceur. Les clochards passent à table. Les peureux passent au courage. Les serviteurs passent aux premières loges. Les grands passent derrière. Les petits passent à la grandeur. Avec toi, Jésus, le pécheur passe au pardon. L'homme passe chez Dieu et la mort passe à la vie.
Bonsoir, je m'appelle Nicodème et je suis pharisien. Qu'il est difficile quand on est pharisien de découvrir qu'on s'est trompé. Cela fait des années, des décennies que je fais des efforts pour vivre selon notre loi et aujourd'hui, je me rends compte que je suis passé à côté de l'essentiel. Tout a commencé il y a quelques mois quand le Nazaréen était de passage à Jérusalem. J'étais intrigué par cet homme et son message. J'étais surtout impressionné par son attitude. Ce n'était pas un prédicateur de talent. Ce n'était pas qu'un prédicateur de talent. Il rencontrait les gens, il priait avec eux et les guérissait de leur infirmité. Je suis donc allé le voir la nuit, le plus discrètement possible. Je ne voulais pas que les gens de la synagogue sachent que j'étais allé, que je lui avais parlé. Je l'ai interrogé sur ses miracles et il m'a tout de suite répondu quelque chose que je n'ai pas compris. Il faudrait naître de nouveau pour vivre le royaume de Dieu. Naître de nouveau, à mon âge, je ne peux plus faire abstraction de mon passé ni de mon expérience de la vie. Il m'a aussi parlé de l'esprit qui est comme le vent, qu'on ne peut enfermer dans aucun système, aucune pensée. Lorsque j'ai quitté Jésus, j'avais écouté ce qu'il disait, mais je ne l'avais pas entendu. Je restais avec mes interrogations. Pour moi, l'essentiel n'était pas une question de nouvelle naissance, mais de connaissance de la Torah et d'obéissance. Comme j'avais du respect pour le Nazaréen et que je connaissais les sentiments des religieux à son égard, je lui ai conseillé de quitter Jérusalem et de rester en Galilée. Mais il a fallu qu'il revienne. Et ce que je craignais est arrivé. Il a été emmené par les hommes du Sanhédrin. Je suis tout de suite allé voir Caïphe, le grand prêtre, pour exiger qu'il ait un procès juste et équitable. Caïphe m'a répondu que cette affaire l'ennuyait beaucoup. Les relations avec les Romains sont particulièrement tendues en ce moment. Il a fait arrêter les Nazaréens pour le faire taire afin d'apaiser les tensions. Dans les situations de crise, le rôle du Sanhédrin est de protéger ce qui peut encore l'être. Caïphe m'a expliqué que lui-même avait plutôt de la sympathie pour ce prophète, mais que sa fonction lui demandait de rechercher le plus grand bien. S'il le fallait, ne fallait-il pas mieux qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation tout entière soit épargnée? Autant dire que ces propos ne m'ont pas vraiment rassuré. Mais quand j'ai appris la façon dont le procès s'est déroulé, j'ai été profondément meurtri. C'est la raison pour laquelle je suis monté, moi aussi, au mont du crâne. Ce n'est pas que je doive me justifier, mais je n'aime pas les crucifixions. Mais le Nazaréen reste pour moi une question. Quand je l'ai vu humilié, frappé, insulté, méprisé, j'ai tout de suite pensé à ce que disait le prophète au sujet du serviteur de Dieu. Ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Alors je pensais à ce passage de l'Écriture où Jésus a dit
« Tout est accompli. »
Comme si sa mort n'était qu'une pure injustice, mais qu'elle est aussi un aboutissement. C'est à ce moment-là que tout est devenu limpide. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Le Nazaréen, c'est lui le serviteur dont parle Ésaïe, envoyé pour porter nos souffrances et nous donner la paix. Pourquoi a-t-il fallu sa mort pour que je comprenne enfin ce qu'il disait ouvertement de son vivant?
Paradoxe. Celui qui est le pain de vie a commencé son ministère en ayant faim. Celui qui est la source d'eau vive a terminé son ministère en ayant soif. Il a été fatigué et cependant il est notre repos. Il a payé le tribut et pourtant il est le roi. Il fut vendu pour 30 pièces d'argent, mais il opéra la rédemption du monde. Il fut emmené comme un agneau à la boucherie. Pourtant, il est le bon berger. Il est mort et il a donné sa vie. Mais en mourant, il a détruit la mort.
Bonsoir. Je m'appelle Marie et je viens de Béthanie. Parfois, il faut attendre la fin d'une histoire pour en saisir le sens. Aujourd'hui, un livre se ferme. Sa fin est cruelle, mais je sais qu'elle n'est pas absurde. Je me souviens de la première fois que j'ai rencontré Jésus. Il s'était arrêté à la maison pour se reposer. En attendant le dîner, il parlait et moi je l'écoutais. Il vivait une vraie passion de Dieu, mais il avait en même temps une grande compassion et une profonde douceur. Je ressentais que ce qu'il disait était vrai. Jamais personne ne m'avait parlé comme cet homme. Depuis, chaque fois qu'il montait à Jérusalem, il faisait une halte à la maison. Il y a quelques jours, ils étaient à table et ses disciples parlaient entre eux. Ils pensaient que c'était maintenant le temps de Dieu. Ils sentaient que l'accomplissement était proche. Jésus allait purifier le temple et libérer Israël. Je ne disais rien, mais leur discours m'ennuyait. J'avais écouté Jésus et je savais que son royaume n'était pas de ce monde. Quand il en parlait, il disait qu'il était pour les pauvres de cœur et que ce sont les petits, les infirmes, les boiteux et les aveugles qui occuperont les premières places. Je voulais parler, mais je ne savais pas comment exprimer ce qui était en moi. Alors, sans réfléchir, je me suis levée. J'ai pris un flacon de parfum de nard pur. Je me suis agenouillée devant Jésus. J'ai versé le parfum sur ses pieds et je les ai essuyés avec mes cheveux. Les disciples n'ont pas compris mon geste. Judas a même fait une remarque sur le prix du parfum qui aurait pu aider les pauvres. Jésus, lui, a compris. Il a répondu à ses disciples, « Des pauvres, vous en aurez toujours avec vous, mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. » Le lendemain, ils sont partis pour Jérusalem et les événements se sont précipités. Il a été arrêté, jugé et condamné par le Sanhédrin, puis par Pilate. Quand j'ai appris qu'il serait crucifié, je suis montée à Jérusalem. J'ai été terrorisée. En chemin, j'ai essayé de raisonner le tumulte qui bouillonnait en moi. Je me suis souvenue qu'il avait dit, « Si le grain de blé ne tombe en terre et ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » Quand je suis arrivée au lieu du crâne, la croix venait d'être dressée. Je suis restée à ses pieds pendant son agonie. J'ai recueilli ses dernières paroles. J'ai été bouleversée par la demande de pardon pour les soldats qui l'ont cloué au bois. Je l'ai entendu dire une dernière parole d'accueil pour un brigand qui partageait sa croix. J'ai été émue par la parole d'amour qu'il a échangée avec Marie, sa mère, et avec son disciple Jean. J'ai habité ses ténèbres lorsqu'il a hurlé à Dieu, « Pourquoi m'as-tu abandonné ?» J'ai partagé son désert quand il a crié « J'ai soif !» J'ai compris que la fin était proche quand il a dit « Tout est accompli. » Il a encore ajouté une dernière parole.
Oh Père, Père, je remets mon esprit à entre tes mains.
Puis il est mort. C'est à ce moment-là que j'ai compris mon geste. Lorsque j'ai versé le parfum à ses pieds, il est mort. Et pourtant, il n'a jamais été aussi fort, aussi grand. Il n'a jamais été aussi vrai. Cette mort est une folie. Mais la folie de Dieu est plus sage que la sagesse des sages. Cette mort est un scandale. Mais le scandale de Dieu renverse les puissances des puissants. Il est mort, mais dans mon cœur, il n'a jamais été aussi vivant. Je suis face à sa mort et jamais je ne suis sentie aussi vivante.
Une fois de plus. C'est vrai, Père, que une fois de plus, nous avons regardé ton Fils monter au calvaire et puis mourir sur la croix. Une fois de plus, nous l'avons entendu crier de misère pardonner, s'en remettre à toi. Nous voyons maintenant la longue cohorte de tous ceux qui, à sa suite, continuent à devoir suivre le même chemin. Tous ceux qui sont des exilés, tous ceux qui sont des persécutés. Nous pensons, Seigneur, à tous ces chrétiens encore qui, aujourd'hui, veulent se souvenir, commémorer ta mort. Ô Seigneur, visite-les dans ces pays où ils sont persécutés. Ceux qui suivent ce chemin, les emprisonnés, les torturés, les abandonnés, les oubliés, les mourants, les malades, tous, en ce jour, implorent avec le brigand, « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Nous-mêmes, Père, nous ne pouvons rien faire d'autre que le répéter avec eux, « Souviens-toi de nous et souviens-toi de tous. » Nous voici, Seigneur, comme les disciples, incapables de courir au secours du Maître, incapables de délier les chaînes injustes, incapables d'arrêter la main des bourreaux, incapables de donner la liberté aux captifs, incapables de déchirer pour notre prochain le voile qui lui cache ton amour, ton pardon, ton salut. Mais nous pouvons au moins les confier à ta grande miséricorde. Te demander de faire pour eux ce qui est hors de notre portée, Seigneur. Et quand l'occasion est là, de soulager autrui de la croix qui l'écrase, te supplier de nous arracher à notre indifférence et à notre immobilisme pour faire de nous des agents, des enfants de ton royaume, ô Père. Père, fais-nous la grâce de ne jamais contempler en vain la croix de ton Fils. Amen.